Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc au Pavillon République pour cette conférence débat avec Catherine Kinzler, donc dont le thème est laïcité, radicalité, intégrisme dans le cadre des rencontres de la laïcité et des valeurs de la République. Je vais présenter très rapidement Catherine Kinzler pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Il y en a sans doute qui l'ont lu, mais peut-être qu'il y a des gens qui la découvrent ce soir. Donc elle est agrégée de philosophie, spécialiste de l'esthétique et de la laïcité, vice-présidente de la Société française de philosophie de 2009 à 2022, spécialiste de la philosophie de l'art notamment, membre du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale depuis 2018, et chevalier de la Légion d'honneur depuis 2013. Donc, c'est dire si nous sommes ravis de l'avoir ce soir avec nous. Elle restera d'ailleurs un peu à l'issue de la conférence, puisqu'on va vous inviter à un moment de convivialité dans le bâtiment qui est juste à côté, moment durant lequel elle va dédicacer ses ouvrages. Donc il y a un petit stand organisé avec la librairie Ombre Blanche où vous pourrez retrouver un certain nombre de ses ouvrages, et notamment cet ouvrage « Penser la laïcité », dont un certain nombre de points, j'imagine, vont être développés ce soir dans la conférence. Je vais demander à Catherine Kinzler de s'installer au pupitre pour sa conférence, à l'issue de laquelle nous allons nous retrouver avec des micros dans la salle pour que vous puissiez lui poser quelques questions. Catherine Kinzler.
Merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le Président, toute l'équipe du Conseil départemental. On est très bien reçus, je dois vous dire, très très bien. Et vraiment, Monsieur le Président, merci pour tout ce travail que vous avez décrit et qui, je suis sûre, porte ses fruits. On ne travaille jamais en vain quand vous effectuez tout cela. C'est très important. Mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux. Je suis impressionnée et je vais essayer d'être à la hauteur. Rassurez-vous, je ne vais pas faire une conférence PowerPoint. La preuve, c'est que je n'ai pas l'habitude. Ça se voit. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Laïcité, radicalité, intégrisme ». Alors, le terme « radicalité » désigne, de façon courante, une forme de durcissement, une régression dogmatique, particulièrement dans le domaine religieux. On parle aussi d'intégrisme. Alors, je voudrais le reprendre, ce terme, en son sens originaire, pour l'appliquer au concept de laïcité. En ce sens premier, la radicalité, c'est le moment où la pensée va effectuer une démarche régressive et où elle s'interroge sur la racine d'une notion, d'une proposition. C'est ce que nous, les philosophes, nous faisons. Je fais ce que je sais faire, et rien d'autre que ce que je sais faire. Donc, il s'agit de remonter à des conditions de possibilité. Je me suis interrogée comme ça. Or, c'est précisément parce que la laïcité a été mise en crise par des radicalisations dogmatiques qu'elle est sortie de sa torpeur, d'un assoupissement intellectuel qui la laissait un peu trop tranquille et qu'il a fallu faire l'effort de la penser jusqu'à sa racine, radicalement. Je vais donc m'efforcer de dégager cette radicalité comme on fait pour les plantes d'une racine qu'on met à nu. Et puis j'essaierai d'en tirer quelques réflexions politiques. Alors, j'ai parlé de mise en crise. L'événement déclencheur qui a mis la laïcité en crise, en a relancé l'intérêt, l'étude, a été ce qu'on appelle l'affaire du voile à l'école, l'affaire de Creil en 1989. J'ai été, vous le savez, co-auteur, co-signataire du texte « L'appel des cinq, prof, ne capitulons pas » qui est paru début novembre dans le Nouvel Observateur. Et puis, sont venues d'autres questions, un ensemble. Alors, ce que j'appelle un ensemble problématique a été un ensemble de défis, de tests, d'épreuves pour une construction philosophique. L'affaire des signes religieux à l'école publique, Creil et récemment la Baïa, l'affaire le vote de la loi de 2004, l'affaire du port du masque intégral dans les lieux publics, les tentatives de toilettage de la loi de 1905. Enfin bon, on n'en finirait pas de les énumérer. Et puis, avec la multiplication des attentats sanglants qui ont marqué l'année 2015, l'assassinat des professeurs Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est toute la société qui a été saisie par des questions liées à la laïcité, à laquelle on fait référence partout, dans tous les sens. Alors, c'est des questions de ce genre que je me suis posées, que j'ai essayées. Je vais vous proposer un modèle théorique. Un modèle théorique. Alors, la césure de 89 a été le symptôme révélant qu'une évidence s'était ébranlée. Mais les tests, les tentatives de déstabilisation n'étaient pas seulement dues à des radicalisations religieuses. La mise en crise s'est installée grâce à un relais très efficace qui ne se présente pas sous la forme d'une radicalisation, mais sous celle d'une pensée très banale et apparemment inoffensive. En effet, l'évidence laïque est attaquée à découvert par l'intégrisme religieux et ses visées politiques. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Par les tentatives communautaristes, mais ces attaques trouvent un soutien auprès d'un allié idéologique important. Cet allié, c'est la pensée qui voit dans l'attitude religieuse une norme. Et donc une variante consiste à réduire la laïcité à la liberté religieuse. Dans cette pensée, il s'agit d'articuler, de combiner les diverses formes de religiosité dans un régime de tolérance dans lequel l'État accorderait un degré de reconnaissance politique aux religions, de type anglo-saxon, si vous voulez. Ces tentatives de réinsertion du religieux dans le domaine de l'efficacité, de l'efficience politique, s'appuient sur l'apparente universalité de ce qu'on appelle le fait religieux. Le schéma consiste à s'autoriser d'une représentation de la société pour former injonction envers l'association politique. Société, association politique, ce n'est pas tout à fait pareil. L'appel à l'évidence sociale sert de point d'appui pour transférer sur un concept les propriétés d'une représentation et pour les ériger en normes politiques. C'est normal d'avoir une religion, donc l'association politique devrait reconnaître les religions, en tenir compte. Et cette opération, bien sûr, ne permet pas de contrer les opérations plus spectaculaires et violentes menées par les radicalités religieuses, notamment l'intégrisme islamique, mais bien souvent même, elle les sert, elle en est complice. Donc, je partirai de là. Vouloir s'inspirer d'une représentation de la société pour en tirer un modèle dont la société politique, dont l'association politique devrait s'inspirer, eh bien, ça pose une question fondamentale de philosophie politique. Je vous avais dit qu'on ferait de la philosophie. Ça pose une question fondamentale de philosophie politique, celle de la nature et de la forme du lien qui fonde l'association politique. Sur quoi est fondée l'association politique ? Ce lien doit-il se confondre avec des liens sociaux préexistants ou s'en inspirer, se calquer sur eux, prendre modèle sur eux, ou bien doit-il et peut-il se penser de manière différente, distincte et se présenter comme autoconstituant, différent, étant à lui-même son propre commencement ? Telle est la question radicale au sens philosophique, celle de la nature du lien politique, celle de la distinction conceptuelle avec tout autre lien, notamment religieux, que j'ai considéré comme fondamentale pour construire cette conceptualisation de la laïcité. En fait, j'ai considéré comme fondamentale, je l'ai découverte au bout d'un certain nombre de recherches. Là, je vous présente les choses une fois reconstituées. Ce fut ma façon de contribuer au réveil de la pensée laïque. Et c'est ici qu'il m'a paru éclairant de remonter non pas au XIXe, mais au XVIIe siècle, parce que la philosophie classique a rencontré cette question, et précisément sous la forme du rapport entre le lien politique et le lien religieux. En quoi est-il nécessaire, ou faut-il les disjoindre, le lien politique et le lien religieux ? Est-ce que le lien politique prend modèle sur le lien religieux ? Faut-il les disjoindre ? Comment est-ce possible ? Et surtout, jusqu'où ? Voilà la question qui m'a semblé fondamentale. Alors, ce noyau conceptuel, eh bien, je l'ai trouvé en lisant le plus grand théoricien de la tolérance à la fin du XVIIe siècle, à savoir l'anglais John Locke, qui a écrit une lettre sur la tolérance. Locke pose une question fondamentale, mais il la pose en y répondant, en réalité. Voilà, dit-il, il faut... Alors, il fait une théorie de la tolérance, je vous en parlerai dans un moment, de séparation, de disjonction entre association politique et association religieuse, mais il dit on ne peut pas admettre les athées dans l'association politique. On ne peut pas les admettre. Alors mes amis militants laïcs me disent « Comment peux-tu partir d'un théoricien qui n'admet pas les athées dans l'association politique ?» Eh bien, voilà pourquoi. Il faut regarder l'argument que donne Locke. Locke dit « On ne peut pas les admettre parce qu'ils ne sont pas fiables, parce qu'ils croient à rien. Donc, on ne peut pas croire à leur serment. » Et donc, en répondant à la question, il la pose. Il pose une question fondamentale. Le lien politique suppose-t-il une adhésion préalable dont le modèle est la croyance? Suppose-t-il des coalitions qui lui seraient logiquement antérieures et qui lui seraient nécessaires? Eh bien, Locke répondait oui. Vous devinez que la réponse de la laïcité va être non, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est la bonne question, me semble-t-il. Sa manière de répondre dégage la question, une question structurante, parce qu'il y répond en relation à la formation de l'association politique. Alors, quelle différence la laïcité va-t-elle introduire dans ce schéma? Une toute petite différence qui va tout changer. Et pour ça, j'ai relu Locke en reprenant son raisonnement. Locke s'emploie à comparer et à dissocier l'association civile, l'association politique, il dit civile, mais moi je dirais que c'est l'association politique, c'est ce que nous appelons l'association politique, d'une part, et l'association religieuse de l'autre. Il les sépare. Alors, vous avez préparé un tableau. Voilà, il les sépare. Elles n'ont pas le même objet. Ah ben je le vois là, c'est très bien. Elles n'ont pas le même objet. Il faut donc, on peut les séparer. Elles ne recourent pas aux mêmes moyens. Je vous laisse lire, ça se comprend de soi-même. Et ce n'est pas le même principe. Donc, le théoricien de la tolérance va les séparer et dire « L'association politique n'a pas à dicter aux citoyens leur religion, elle n'a pas à s'en mêler. » Mais il y a une racine commune. Il ne dit pas comme ça. Je l'ai tiré, moi, de cette réponse qu'il donne. « Je n'admets pas les athées dans l'association politique. Pourquoi ? Parce que la racine de toute association est une racine de type adhésion, est une racine de type j'ai dit fiduciaire, c'est le vocabulaire de la comptabilité, de la finance, mais c'est, au fond, c'est adhésif. Il faut que ça soit adhésif. Croyez ce que vous voulez, mais croyez à quelque chose. Et là, vous pourrez entrer dans l'association politique. On ne se mêle pas de ce que vous croyez, ça c'est la tolérance, mais il faut que vous croyez à quelque chose. Bon, c'est très intéressant, très intéressant. Donc, la forme qui assure la cohésion, si vous voulez, du lien politique, c'est la référence, au fond, au fait que les citoyens vont entrer dans l'association parce qu'ils savent déjà ce que c'est qu'un lien par le lien religieux. Le lien religieux et le lien politique ont une forme radicalement commune, alors qu'ils ont des propriétés disjointes. C'est ça qui commande l'argumentation de Locke contre les athées. C'est comme ça que j'ai essayé de trouver pourquoi ils raisonnent comme ça. Les athées, ce sont des électrons libres. Ils sont déliés, on ne va pas pouvoir les rassembler. Donc c'est un lien, je dis fiduciaire, on pourrait dire convictionnel. Convictionnel, ce sera plutôt le vocabulaire d'aujourd'hui. Bon. Alors, comment va s'introduire la différence laïque? Le concept de laïcité, eh bien, il est conforme à ce tableau, tout le haut du tableau, on peut le reprendre. On peut changer le vocabulaire de Locke, qui est le vocabulaire du XVIIe siècle, mais enfin, on s'y retrouve quand même. Et il va le reprendre, mais à une différence près. La cellule, la dernière cellule, racine commune, eh bien, la laïcité va la scinder en deux également. Elle va la scinder en deux. On va faire l'économie de la parenté de nature entre lien religieux et lien politique. Voilà. Voilà ce que va faire la laïcité. Voilà ce que va faire la laïcité, c'est-à-dire qu'on va dire, mais non, l'association politique n'a pas besoin de citoyens qui, par ailleurs, croient à quelque chose, qui sont pris dans une forme adhésive. Hein. Ils vont pouvoir s'assembler, ils vont pouvoir voter des lois, ils vont pouvoir s'interroger, et l'association politique commence avec elle-même. Ça semble tout simple. Mais cette différence est une option philosophique très importante. Vous voyez, c'est un minimalisme. C'est un minimalisme, puisque on a dit, on n'a pas besoin d'autre chose que de l'association politique elle-même, de la décision des citoyens et de leur consentement et de leur volonté de faire des lois ensemble, sans aucune référence à autre chose qu'à cette association politique. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 le dit. Le principe de toute souveraineté est dans la nation. Il n'est nulle part ailleurs, ni au-dessus. Donc c'est une association entièrement autoconstituante, ne devant rien à autre chose qu'elle-même, et elle est à elle-même son propre commencement. Et donc, de ce fait, l'antériorité logique de l'association religieuse est évacuée, mais pas son antériorité chronologique. Les religions ne sont pas évacuées, elles sont pratiquées dans la société civile. Mais elles n'ont pas de pertinence politique. Elles ne sont pas convoquées au niveau politique. Elles n'ont pas la parole au niveau politique. Elles ne font pas la loi, tout simplement. Donc il n'est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit, d'adhérer à une conviction religieuse, métaphysique, pour construire l'association politique. Alors j'ai dit minimalisme, je vais lâcher un autre gros mot, c'est un immanentisme. Ça va ensemble, c'est-à-dire que c'est présent là, dans l'association, il n'y a pas besoin de se référer à autre chose qu'à elle-même. Alors, une remarque, ça concerne aussi l'athéisme en tant que conviction. Bien sûr, les athées vont être admis de ce point de vue, puisque ne formons pas de lien, on ne leur demande pas compte s'ils forment un lien ou pas. Mais l'athéisme en tant que conviction n'est pas non plus admissible dans l'association politique, pas plus qu'une religion ou qu'une autre métaphysique. Tout ça est superflu pour constituer l'association politique. La loi n'a pas besoin d'une conviction préalable. Elle ne s'inspire d'aucun lien préexistant. Vous voyez donc qu'ici, nous avons une démarche qui simplifie, mais qui va être... Bon, c'est assez simple. Une idée simple peut être difficile. C'est assez simple comme idée, c'est même très simple, mais c'est assez difficile à comprendre et à expliquer. Les non-croyants vont être admis, mais ils ne sont pas admis dans l'association laïque en tant qu'ils ont une conviction, de même que les autres ne sont pas admis en tant qu'ils ont une conviction. Leur conviction, ils l'exercent ailleurs, dans la société civile. Ils vont mettre leur conviction à l'écart et ils vont pouvoir faire des lois sans avoir besoin de cela. Est-ce qu'on peut faire un écran noir avec ce truc-là?
Alors, pas su... on va demander à la régie s'ils ont du noir en...
C'est bon. Ben, il est très bien, ce noir-là. J'aurais besoin tout à l'heure d'une autre diapo. Le premier résultat de cet examen, c'est une formule qu'on peut exprimer par une analogie avec un système arithmétique. C'est le zéro. C'est l'espace zéro. J'emprunte cette analogie à un commentaire qu'a fait un de mes collègues américains à l'issue d'une conférence qu'il m'avait invité à donner à Princeton. Et s'agissant de l'organisation de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, il a proposé cette analogie avec la numération. Il dit, voilà, en matière de liberté de conscience, en matière de liberté religieuse, nous, les anglo-saxons, nous commençons par 1. Les Français, eux, ils commencent par 0. Partir de 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'appuyer sur les communautés, les courants existants, les religions, pour les réunir dans ce qu'ils ont de commun, croyez à quelque chose. Partir de 0, du fait même de ce minimalisme, c'est ouvrir un espace plus large qui pourra accueillir toutes les positions, y compris celles qui n'existent pas. Y compris celles qui n'existent pas. Ou pas encore, mais y compris celles qui n'existent pas. Là, je voudrais vous citer une phrase que j'ai trouvée dans une interview de Delphine Horwiller, le rabbin Delphine Horwiller. J'ai trouvé ça dans Figaro Madame, figurez-vous. Eh bien, vous allez voir, elle dit « La laïcité... c'est une garantie d'oxygénation permanente parce qu'il y a toujours un espace autour de moi qui est vide de ma croyance et de celle de mon voisin. » Il y a toujours un vide quelque part. Et effectivement, c'est un espace... Alors, traduisons-le peut-être en termes plus... Je sais pas... scientifiques, entre guillemets. C'est un espace non saturé, la laïcité. Voilà ce qu'il faudrait que j'explique à nos élèves. C'est un espace non saturé. Il y a toujours de la place pour autre chose parce qu'il y a toujours du vide. C'est comme dans une bibliothèque, il faut toujours qu'il y ait des trous. Sinon, vous ne pouvez plus mettre les bouquins qui arrivent. Mais il faut qu'il y ait le trou. C'est un espace non saturé et non saturable. Les agents sont déliés, effectivement. Leurs liaisons existantes sont suspendues du point de vue politique, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on va dissoudre les associations. Mais ils vont former cet espace zéro. Ils vont s'assembler en tant que citoyens à ce moment-là. C'est un espace zéro non saturé et non saturable. Donc une association politique laïque, concrètement, elle ne se contente pas d'assurer la liberté de ceux qui se réclament d'une appartenance. Elle le fait, bien entendu. Mais elle assure aussi la liberté de ceux qui n'en revendiquent aucune, qui ne forment pas communauté préalable. Davantage, et c'est là encore qu'apparaît la pertinence de la comparaison de mon collègue avec le zéro, le droit de non-appartenance est fondamental. Il ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Ce n'est pas comme d'appartenir à telle ou telle communauté, à telle ou telle religion. Non, il n'en est pas la variante inversée. Il en est la condition. Sans le droit à la non-appartenance, il n'y a pas d'appartenance valide. C'est une paraphrase d'une phrase de Beaumarchais. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Sans le droit à la non-appartenance, il n'est pas d'appartenance valide. Alors, beaucoup de conséquences peuvent être facilement tirées de tout cela et beaucoup de propriétés du concept de laïcité. Je vais en tirer quelques-unes. La séparation des églises et de l'État, elle est déjà dans la tolérance de Locke. Il sépare les églises et l'État. Mais ça n'épuise pas la laïcité. La laïcité tranche entièrement la relation du lien politique avec toute forme religieuse ou d'adhésion à une position métaphysique. Le moment moral est donc inclus dans cette opération. Pas de serment sur un livre sacré. Il y a séparation rigoureuse des églises et de l'État aux États-Unis. Mais on continue à frotter serment sur un livre sacré. Pas de prière publique dans une association laïque. Aucune conviction n'est officiellement reconnue. Les citoyens sont donc libres d'avoir celle qu'ils souhaitent, ou aucune, ou de réprouver toute croyance. La liberté des cultes est donc subordonnée à la liberté de conscience. La liberté de conscience est première. La rédaction de l'article 1er de la loi de 1905, c'est la variante laïque de la séparation des églises et de l'État, introduit, vous le savez, une ponctuation forte entre assurer la liberté de conscience, la République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit la liberté des cultes dans les restrictions, etc., ordonnées par la loi ci-après. Les deux libertés ne sont pas sur le même plan. Vous voyez, je reviens au début de mon propos. Donc, ce n'est pas la liberté religieuse qui est le critère pour former une association politique laïque. C'est bien sûr, a fortiori, la liberté religieuse y est assurée. Mais c'est d'abord la liberté de conscience. Et le champ, d'ailleurs, des dispositions laïques a bien précédé la loi de 1905. Hein, il y a une grande partie. Il commence avec l'état civil, en 1792. Les grandes lois scolaires, à la fin du 19e siècle, mais avant 1905. Les cimetières, etc. Deuxième conséquence, la puissance publique s'installe sur le moment zéro. La puissance publique s'installe sur le moment zéro. Tout ce qui participe d'elle, je dis bien d'elle et non pas à elle, s'abstient en matière de croyance, de non-croyance, de position métaphysique, etc. C'est ce qu'on appelle, à strictement parler, le principe de laïcité. Vous le reconnaissez, là, tout le monde le sait. Mais ce principe propre à la puissance publique, donc les agents publics, les fonctionnaires, les services publics, etc., mais ce principe propre à la puissance publique ne suffit pas à définir le régime de laïcité. Il faut, pour définir le régime de laïcité, compléter ce principe de laïcité par ce qu'il laisse libre, parce qu'il est limité, ce principe de laïcité. Donc, il faut adjoindre à ce principe de laïcité ce qu'il ne gouverne pas directement, ce qui est en dehors de ce qu'on appelle maintenant son périmètre, le principe de libre expression. Ça va sans dire, mais enfin, autant le dire. Et le principe de libre expression, dans le cadre du droit commun, vaut partout ailleurs, dans la rue, dans les transports, dans la société civile, dans les commerces, etc. Il y a libre affichage. Confondre ces deux principes, dans un sens ou dans l'autre, c'est ruiner la laïcité, mais j'y reviendrai dans un moment avec un autre dispositif. Autre conséquence, la non-reconnaissance politique et le non-financement public des cultes sont déductibles, bien entendu, de l'espace zéro. La liberté des cultes est un droit liberté, c'est pas un droit créance. Hein, la République va laisser la liberté des cultes, mais elle ne va pas l'alimenter, elle ne va pas la financer. Ça serait rompre, bien sûr, l'égalité entre les citoyens et tout simplement saturer l'espace. Ça serait une façon de saturer l'espace. Autre conséquence, l'association politique ne suppose aucun lien préalable dont elle s'inspire. Ça ne signifie pas qu'elle abolit ses liens, elle ne leur accorde pas de rôle politique, d'efficience politique. Donc elle réunit d'abord des individus. Ces individus assurent leur indépendance par la loi qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Donc un minimalisme, un immanentisme, un atomisme. Et oui, l'individualisme existe. Il y a plusieurs formes d'individualisme, mais ça, il fallait quand même, je tiens à le dire, ce sont d'abord des individus qui forment l'association politique. Dans une telle association, il n'y a donc pas d'obligation d'appartenance, mais il n'y a pas non plus de supposition d'appartenance. Les appartenances sont libres. Le droit de l'individu, du promeneur solitaire, je pense à Rousseau, bien sûr, de la promeneuse solitaire, eh bien, il est prioritaire. C'est un atomisme. Pour caractériser cette association d'individus, autre conséquence, le modèle du contrat, le modèle ordinaire du contrat, n'est pas adéquat. On parle souvent de contrat laïque, etc. C'est une facilité. Il n'y a pas de contrat entre une association laïque comme la République française et les citoyens, parce que ce sont les citoyens, par l'intermédiaire de leurs représentants, qui font les lois. Donc, ils contractent. S'ils contractent, c'est contract avec eux-mêmes. Donc, c'est une autre technique. Ce n'est pas un contrat commercial. Il n'y a pas d'échange. La République n'est pas un deal avec un groupe, avec tel ou tel groupe. Constitué comment? Avec quelle légitimité? Avec quel chef? Avec quel grand frère? Avec quelle mafia? Elle ne traite pas avec des lobbies. Ce n'est pas une association sur le modèle d'un échange marchand. Ce n'est pas en vertu d'un traitement particulier qu'on obtient ses droits, sa liberté, sa sécurité. On les traduit en termes universels pour qu'ils soient possibles pour tous, énonçables juridiquement, applicables en même temps à tous. C'est dans cet esprit qu'on s'efforce de faire des lois. On n'y arrive pas toujours, mais c'est un horizon. Et d'ailleurs, la législation laïque, les lois laïques, hein, du mariage civil aux lois scolaires, de la séparation des églises et de l'État à l'émancipation juridique et politique des femmes, en passant par la protection de la recherche en biologie, les avancées sur le droit de mourir, les dispositions laïques sont exemplaires à cet égard. J'énumère encore quelques conséquences, mais on va arriver au bout de nos peines. Les communautés ne sont pas pour autant exclues, bien sûr. Elles jouissent de la liberté dans la société civile et même elles peuvent jouir de dispositions législatives. La législation sur les associations leur permet, y compris les associations religieuses qui peuvent se constituer en associations cultuelles. Donc un rassemblement communautaire n'est pas nécessairement communautariste. Quand est-ce qu'il devient communautariste? Ça nous permet un petit peu de réflexion sur ce que c'est que le communautarisme. Eh bien, un rassemblement communautariste, on devient communautariste à partir du moment où ce rassemblement s'érige en dépositaire d'une chasse gardée, et où il fait pression sur ceux qu'il regarde comme devant lui appartenir. Il fait pression, disons, toi, tu devrais peut-être venir plus souvent à la réunion, plus souvent faire la prière, etc. À partir du moment où il leur prescrit des obligations, impérativement, qui vont au-delà de ce que la loi commune exige. Donc la loi protège ceux qui veulent échapper à l'assignation communautaire. Et puis, le communautarisme politique existe lorsque on passe au niveau où il réclame, au niveau de la loi, des droits et des devoirs particuliers. Avant-dernière conséquence, la laïcité n'est pas contraire aux religions. Celles-ci vont jouir du droit d'association cultuelle, elles vont pouvoir se déployer dans le cadre du droit commun, bien sûr, mais elles s'opposent seulement à leur parti politique, à leur visée politique, à leur tentative de faire la loi en tant que telle. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que les citoyens puissent faire valoir un point de vue inspiré d'une religion. Ils peuvent très bien militer pour ça, mais il faut qu'ils puissent le faire dans des termes accessibles à tout citoyen universellement. Enfin, si la laïcité n'est pas contraire aux religions, il y a une forme de religion à laquelle elle s'oppose totalement et directement, c'est la religion civile. La loi, la foi n'a pas à faire la loi, mais la loi n'a pas à se transformer en article de foi. Et c'est encore un élément qui distingue le régime laïque des régimes d'athéisme d'État, qui sont des religions civiles, ce sont des religions. Bon, il faudrait parler de la laïcité scolaire, mais là, il faudrait une autre conférence. Alors, je me propose maintenant, j'ai parlé longtemps déjà, mais j'ai encore un petit peu de temps, un zoom sur un des points. J'ai parlé tout à l'heure du régime de laïcité en disant que le principe de laïcité n'épuise pas le régime de laïcité, qu'il y a deux principes dans le régime de laïcité, qu'il y a une dualité. Hein. Il y a d'une part, attendez, je crois que j'ai un... Je crois que j'ai fait un... Voilà. J'ai fait une diapo là-dessus. Bon. Le régime laïque combine deux principes. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc je reprends ici. Articule deux principes. Dans le domaine de l'autorité publique, de la puissance publique, c'est le principe de laïcité qui s'applique. On s'abstient. Hein, on garde la réserve. Donc, c'est l'autorité publique, la législation, les magistrats, les fonctionnaires, les bâtiments publics, la voie publique. Bon. La voie publique, en tant qu'elle est fixe. Hein. On met pas d'édifice religieux dessus, sauf ceux qui existaient avant 1905. On les entretient quand même. Bon. L'école publique, ce que les juristes appellent la sphère publique. Bon. Là, je vous fais remarquer que ce domaine est défini, c'est-à-dire que c'est la loi qui énumère ces objets. Les objets qui ne sont pas dans cette énumération, enfin, ce n'est pas la mienne, hein, faut voir la loi. Hein, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai simplifié énormément. Mais ils ne sont pas concernés par le principe de laïcité. Et puis, d'autre part, le principe de liberté d'expression, ça va sans dire, mais il faut le marquer quand même, il faut le dire. Tout ce que le principe de laïcité, tout ce que l'autorité publique, donc tout ce qui ne participe pas directement de l'autorité publique, eh bien, jouit des libertés civiles. Bon, autrement dit, dans la société civile, dans les lieux accessibles au public, une salle de conférence, une bibliothèque, la rue, tout simplement, un hall de gare, eh bien, vous pouvez afficher vos convictions, vous pouvez arborer un affichage religieux. Donc, sans cette dualité, la laïcité n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. C'est parce que la puissance publique et le domaine qui lui est lié constitutivement s'astreignent à la réserve en matière de culte, restent sur le zéro, si vous voulez, que les libertés d'expression d'association vont pouvoir se déployer dans le cadre de la société civile et dans l'espace civil. Eh bien, cette dualité installe ce que j'appelle la respiration laïque, passer de l'un à l'autre. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est tenu par le principe de laïcité, donc doit observer l'abstention, eh bien, une fois qu'il quitte ses fonctions, tous les soirs, au moment qu'il quitte son service, il va pouvoir exprimer toutes les opinions qu'il veut, afficher sa religion, etc. Moi, professeur dans l'enseignement public, eh bien, je ne pouvais pas faire état de mes opinions auprès de mes élèves, mais à la sortie, je ne m'en privais pas. Mais bien sûr, c'était en tant que citoyen. Voilà. Donc, c'est ça la respiration laïque. Hein. La respiration laïque fait qu'il y a toujours un moment d'alternance. L'élève qui ôte ses atours religieux en entrant à l'école publique peut les remettre en sortant. On oublie toujours de le dire, ça. Il peut les remettre en sortant, il fait ce qu'il veut, en fait. Il échappe par là aussi bien à une uniformisation d'État, parce que si l'État disait qu'il faut être laïque partout, tout le temps, ça serait une uniformisation. Est-ce que ça serait laïque ? J'y viendrai pour terminer. Mais il échappe aussi à l'éventuelle uniformisation que lui réclamerait son appartenance en lui disant « tu dois tout le temps porter tel accoutrement, tel signe, partout, où que tu ailles et sans arrêt ». Ça, c'est une forme, c'est une uniformisation. Le patchwork, c'est une uniformisation par morceaux. On n'y pense jamais, ça. Hein, on n'y pense jamais. Donc, deux espèces d'uniformisation sont tenues en échec. Personne n'est soumis à l'uniformisation d'un État qui s'imposerait dans tous les secteurs de la vie. S'imposer dans tous les secteurs de la vie, ben, c'est la définition de l'intégrisme. intégralement. Intégralement. Mais, parallèlement, personne n'est assigné contre son gré à suivre les exigences d'une communauté d'y conformer ses comportements. Une telle conformité doit être une liberté, mais pas une uniformisation. Donc, quand on avance la notion de diversité, eh bien, ça sert souvent à masquer et même parfois à promouvoir l'uniformisation par collection, par molécule, comme ça, ce que je viens de décrire, par patchwork, qui devient alors une assignation. Or, la diversité, eh bien, c'est d'abord celle qu'on doit assurer entre les individus. Entre les individus. Dans une association politique laïque, il n'y a pas d'obligation d'appartenance. Je l'ai déjà dit. Le régime de laïcité, donc, est auto-limitatif. Il installe la puissance publique dans un espace neutralisé, un espace zéro. Et dans l'espace social ordinaire, la liberté d'expression peut se déployer dans le cadre du droit commun. Voilà pourquoi la laïcité est liée à la liberté. Donc l'expression, vous voyez que l'expression intégrisme laïque n'a pas de sens. Puisqu'il s'agit, un intégrisme ne se limite pas, justement. Il vous impose des comportements, des pensées, des dogmes, tout le temps, à tous les moments de la vie et partout. Le principe de laïcité, lui, il est limité à ce que les juristes appellent la sphère publique. Bon, ça peut changer, le contenu de la liste peut changer, peut s'allonger, mais il est toujours défini. Donc, l'intégrisme consiste à uniformiser l'intégralité de la vie, il ne peut donc pas y avoir d'intégrisme laïque. Est-ce que je vais finir la conférence maintenant ? Non. Non. Ce vide de sens ne suffit pas à expliquer la fréquence de l'expression intégrisme laïque. Il faut donc expliquer pourquoi les gens croient qu'il y a de l'intégrisme laïque. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Bon. Il faut pour ça bien considérer le fonctionnement de la dualité de principes dont je viens de parler. Cette dualité, elle explique, je vais essayer d'expliquer comment elle peut déraper, comment elle peut dériver. Et ces dérives, elles sont au nombre de deux, puisqu'il y a deux principes, et elles s'expliquent par le même mécanisme. Le mécanisme, je vous le donne tout de suite, vous prenez l'un des principes, et puis vous lui faites dévorer l'autre. Vous le faites dévorer. Alors bon, comme nous, les philosophes, on ne fait pas les choses à moitié, on fait les choses en gros, plutôt. Hein. Ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Eh bien, on va faire la fiction que l'un des principes va entièrement effacer, se substituer à l'autre. Mais, bien sûr, il peut y avoir des degrés, des gradations, des petites tentatives. Hein, bon. Alors, la première dérive. Vous prenez le deuxième principe, là, celui qui est en bas du tableau. Je l'appelle la laïcité adjectivée, parce qu'elle ajoute un adjectif au substantif laïcité. Et cet adjectif a pour fonction d'absorber le substantif. Qu'est-ce que ça va faire ? Ben, vous prenez ce principe de liberté d'expression, d'affichage qui vaut dans la société civile, et puis vous allez l'appliquer. Vous allez dire, ah ben il faudrait que ça soit l'État aussi comme ça. Donc on va permettre aux fonctionnaires de porter des signes religieux, etc. Voilà. Donc, on va dissoudre le principe de laïcité dans le principe de libre affichage qui va s'imposer. Et on va aligner le domaine de l'autorité publique sur la société civile. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation des églises et de l'État. Ce sont les communautés qui vont... Il y a communautarisation du corps politique. Donc, on récuse le caractère neutre et minimaliste de la puissance publique. Alors, on ne le fait pas globalement. Hein. Là, c'est un schéma que je vous propose. Mais, par certains points, on va demander des financements, on va demander une reconnaissance, etc. C'est ce que certains appellent la laïcité de reconnaissance. C'est un oxymore. Hein. C'est un oxymore. Bon. Eh bien, cette dérive a notamment été désavouée par le vote de la loi de mars 2004, la loi sur le port des tenues religieuses à l'école, parce que c'était une tentative, bien sûr, pour introduire le moment du deuxième principe, c'est-à-dire la société civile dans l'État. Ou transformer l'État, ou aligner l'État sur les mœurs de la société civile. Bon, donc il n'y a plus de laïcité. Il n'y a plus de problème. Alors maintenant, vous prenez l'autre principe, prenez le principe de laïcité, et puis vous lui faites dévorer l'autre. Qu'est-ce que vous obtenez ? Il n'y a plus que le principe de laïcité. Vous demandez son application partout, tout le temps. Donc, plus de signes religieux nulle part. On efface tout. C'est un désert d'opinion. C'est un désert d'expression d'opinion. Je veux plus de voir de voile islamique. Je veux plus voir de croix dans la rue. Je veux plus voir de... Il y a des gens qui prétendent ça. Hein. Il y en a beaucoup qui prétendent l'autre, hein, qui sont dans l'autre dérive. Mais celle-là, on l'entend. Bon. Eh bien, on va durcir le domaine de la société civile en exigeant qu'il se soumette à l'abstention qui devrait régner uniquement dans le domaine de la société civile. On va durcir le domaine de la société civile en exigeant, hein, en exigeant qu'elle se soumette, qu'elle se soumette à ce qui devrait être limité, hein, à la sphère de l'autorité publique. Bon, je ne vais pas vous raconter comment je suis arrivée à formaliser ça. C'est à la suite d'un événement, d'un petit événement, un micro-événement qui a eu lieu en 2007. On appelait ça l'affaire du gîte d'Épinal. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'était une dame qui tenait un gîte rural et qui avait prétendu... Alors, il y avait des femmes voilées qui s'étaient présentées et elle les avait fichues à la porte en leur disant « Ici, c'est public. Pas de voile. » Elle a été lourdement condamnée. C'est la société civile, bien sûr. Bon. Donc, là, il faut donc bien comprendre que le mot public est ambivalent. Public, ça peut vouloir dire qui relève de l'autorité publique, qui participe de l'autorité publique, les services publics, l'école publique, les magistrats, etc., la loi, tout simplement. Ça peut vouloir dire aussi qui est ouvert au public. Et là, c'est tout à fait différent. Dans les lieux ouverts au public, le principe de laïcité ne s'applique pas forcément. Il ne s'applique que dans les lieux qui participent de l'autorité publique. Bon. Eh bien, vous voyez que ces deux courants, ils sont opposés, mais s'expliquent d'abord par un même mécanisme, mais ils se relayent, ils se fascinent l'un l'autre. Hein. Ils s'aiment beaucoup, en quelque sorte. Hein. Ils se renforcent l'un l'autre. Ils ont offert la laïcité à l'extrême droite depuis longtemps. Depuis longtemps, l'un en désertant le terrain laïque pendant de longues décennies, donc il y avait un objet à ramasser, bien, c'était facile, on l'a abandonné, cet objet laïque. Et l'autre, en investissant avec des propositions durcies, réactives. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, hein, nous avons un dispositif qui permet d'expliquer par le même mécanisme des positions qui sont complètement... des thèses diamétralement opposées. Et vous voyez que la notion d'uniformisation, eh bien, elle est très, très différente. Mais elle existe dans les deux thèses. L'uniformisation s'installe soit par communautarisation indéfinie de l'espace politique, chaque communauté uniformisant ses membres. L'autre, c'est alors un nettoyage d'État qui désertifie l'espace civil. Donc la respiration laïque consiste à maintenir la dualité. Il faut maintenir cette respiration laïque. Alors, en quel sens peut-on parler d'intégrisme ? Ça sera mon tout dernier point. La première dérive, enfin, celle qui est en bas, c'est plutôt celle qui est en bas du tableau. Non, c'est l'autre. La première dérive peut se réclamer... La laïcité adjectivée, elle peut se réclamer d'une forme de tolérance consistant à organiser la coexistence de communautés diverses. Donc, elle ne relève pas directement dans son principe de la notion d'intégrisme, elle n'est pas homogène, hein, ce n'est pas une uniformisation homogène, mais elle favorise l'emprise de l'intégrisme communautaire par les différentes associations religieuses, politico-religieuses, hein, et notamment par l'intégrisme islamique. C'est favorisé. Hein. C'est pour ça que, au début de mon intervention, je parlais de cette pensée banale, un peu aimable, qui dit « mais il faut reconnaître les communautés, etc. » Eh bien, ça favorise l'intégrisme communautaire, tout simplement. Tout simplement. L'autre dérive, l'extrémisme laïque, ultra. Eh bien voilà, c'est là qu'on parlait. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'intégrisme laïque. C'est quand on veut uniformiser entièrement la société civile en lui imposant la règle, le principe de laïcité. En ce sens, oui, on peut parler d'intégrisme puisque ce mouvement viserait une uniformisation homogène de la vie sociale relevant d'un principe général appliqué par l'État. Je veux rien voir, je veux pas voir de signes religieux nulle part. Alors oui, ce serait un intégrisme, ça. Mais s'agirait-il pour autant d'un intégrisme laïque ? Est-ce laïque d'imposer le principe de laïcité partout, tout le temps ? Non, c'est pas laïque. On voit que l'invocation incantatoire de la distinction entre public et privé ne met pas la laïcité à l'abri d'un contresens. Ce qui est public peut en effet désigner ce qui participe de l'autorité publique, État, magistrat, législation, agent public, etc., mais peut désigner aussi ce qui est simplement accessible au public. Donc ce n'est pas parce que c'est public qu'il faut demander toute abstention, la disparition de tout affichage. Donc, il faudrait réclamer alors que tout ce qui n'est pas intime se plie au principe de laïcité parce que c'est public. C'est ça l'argument. Ce serait ça l'argument. Mais ce serait la négation du régime laïque, l'abolition de la liberté d'expression. D'ailleurs, on ne voit pas que la République française cherche à réduire la présence religieuse dans la société. Est-ce qu'on fait taire les cloches pour un autre motif que la tranquillité publique ? Le port de signes religieux dans la rue, dans les espaces accessibles au public, est-il prohibé ? Pas du tout. Les discussions publiques, les publications, sont-elles tenues d'éviter tout sujet religieux, toute opinion religieuse ? Non plus. Est-il interdit d'organiser une réunion publique à caractère religieux ? Une procession ? Même le prosélytisme n'est pas interdit en France. Le prosélytisme n'est pas interdit en France. Il est interdit que sur des thèmes de droit commun. Il est interdit lorsque on importune les gens ou dans des lieux clos où ils ne peuvent pas se détourner. Ils sont obligés de le subir. Alors oui, la patronne du gîte, elle aurait pu dire « Oui, d'accord, vous entrez, mais vous ne faites pas de prière en présence des autres, à table. » Un curé, oui, on l'admet, bien sûr, à la table commune, mais il ne va pas imposer le bénédicité à tous ceux qui participent au repas. Voilà la différence. Bon. Et vous voyez pourquoi c'est très important de comprendre le fonctionnement de la dualité du régime laïque. Alors, pour conclure, quelques réflexions politiques. Parce qu'on est quand même venu pour parler politique aussi, hein, pas seulement philosophie. Enfin, c'est lié. Alors, de peur de dériver vers un extrémisme uniformisant, est-ce qu'il faut se réfugier dans la frilosité et restreindre les objets de la laïcité ? Ça, c'est une première, enfin, il y a une intimidation qu'on s'imposerait à nous-mêmes qui serait paralysante. Est-ce que, au prétexte que, il ne faut pas en faire de trop, il faut s'en tenir à ce qui est de l'ordre de l'autorité publique, est-ce que il faut restreindre les objets de la laïcité ? Mais non, il ne faut pas les restreindre. Il faut examiner s'ils peuvent entrer ou non dans le champ du principe. Et ça, c'est le législateur qui doit le faire. C'est la loi qui le fait. On peut très bien appliquer la laïcité à des éléments qui n'existaient pas autrefois et qui ne posaient ou qui posaient pas de problème. C'est pour ça que nos adversaires, les opposants à la laïcité, disent « Ah ben oui, mais il faut rester, vous voulez tout le temps allonger la liste ». Ben oui, il va falloir la modifier, la liste. On peut la modifier, mais il faut que ce soit le législateur. Il faut que ça soit défini. Alors, le mariage étendu aux personnes de même sexe, ben oui, c'est une disposition laïque. Il a fallu batailler pour l'obtenir. Bon, c'est un apport récent et capital. Bon, la plupart des droits des femmes, eh bien, oui, c'est une législation laïque. Il a fallu batailler. Mais on pourra prendre un exemple plus pertinent qui n'est pas réglé. C'est l'exemple des accompagnateurs scolaires. Là, c'est intéressant. Un exemple très intéressant. Bon, voilà, il y a des arguments qui permettent de montrer qu'il faudrait peut-être inclure les accompagnateurs scolaires dans la catégorie des agents publics momentanément. Bon, on pourra peut-être l'aborder dans la discussion. Je ne vais pas Je ne vais pas détailler, hein, mais en tout cas, c'est ma position. Je l'ai développée souvent. Mais d'autres chantiers très importants sont ouverts. La question de la recherche sur les cellules souches, par exemple. La recherche en biologie est très importante. Il faut qu'elle soit protégée des menées intégristes. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt les menées catholiques, hein, les menées d'un christianisme offensif. Mais enfin, il a perdu beaucoup de sa superbe, quand même, il faut le dire. Bon. La question de la fin de vie est en discussion, toujours. Hein, pourquoi ? Parce qu'il y a un reliquat de législation inspiré du modèle religieux. Bon, mais le champ des dispositions laïques doit être déterminé et il doit toujours être limité, bien sûr. Mais détermination, limitation, n'est pas clôture absolue sur un statu quo. Une autre forme de paralysie, ce sera le tout dernier mot, une autre forme de paralysie menace la réflexion et l'action laïque et pervertit l'exercice de la liberté en laissant le champ libre aux menées intégristes, déguisées pour l'occasion en plaintes de victimes offensées. Cette paralysie est morale. Cette paralysie, c'est l'autocensure qui est réclamée au nom des sensibilités blessées. Vous devez vous restreindre, il ne faut pas critiquer les religions, et surtout pas certaines d'entre elles, parce que ça offense les croyants. Je suis offensé, c'est le mot magique. C'est le mot magique. L'expression religieuse est libre dans la société civile. Mais ça ne suffirait pas. Il faudrait en outre l'assortir d'un respect dû aux religions, d'une prescription morale qui réprouverait leur critique en l'accompagnant d'une injonction d'approbation, d'une génuflexion, ce qui reviendrait à priver de liberté l'expression irreligieuse qui existe et qui doit jouir des mêmes libertés. Aux yeux de ce prêchi-prêcha, il ne suffirait pas de respecter les lois en tolérant ce qu'on réprouve, bien sûr qu'il faut le tolérer. Il faudrait en plus l'applaudir, s'abstenir de toute critique. Si vous froncez le sourcil en présence d'un voile islamique, vous êtes un affreux liberticide, un intégriste laïque, un islamophobe. Et de vous expliquer que même si ce n'est pas raciste de caricaturer un élément religieux, c'est manquer de respect à ceux qui y croient. Alors il faudrait se donner pour règle le respect de tout ce que les autres croient. Et ainsi, non seulement on frappera d'interdit tout ce qui est contrarie une croyance quelconque, mais on finira par considérer comme admissible que, je cite mon ami Henri Pénard-Huys, j'ouvre les guillemets, la simple projection d'un dessin puisse entraîner une décapitation. Eh bien, il faut rappeler que la liberté d'expression, encadrée par un droit qu'il faut justement appeler commun, vaut pour tous, en tous sens. Sa pratique est rude, elle n'a pas la gentillesse pour norme, mais la loi. Oui, on a le droit de porter le voile. Oui, on a le droit d'exprimer une option politico-religieuse ultra-réactionnaire dans la société civile. On a le droit de dire que l'incroyance est une abomination. Mais n'oublions pas la réciproque. C'est en vertu du même droit qu'on peut exprimer la mauvaise opinion et même la détestation qu'on a de tout ce que je viens d'énumérer là. C'est en vertu du même droit qu'on peut caricaturer, même grossièrement et irrévérencieusement, telle ou telle religion. Oui, c'est difficile à supporter, mais la civilité républicaine, en tolérant qu'on s'en prenne aux doctrines et jamais aux personnes, a ici une leçon de bonne manière à donner aux Saintes-Nitouches armées d'un coutelas de boucher. Je vous remercie.
Même audio, une mémoire sonore.
Merci beaucoup, Catherine Kinsler. On est tous d'accord, c'est exigeant quand même. Hein, ça demande un petit peu de concentration. Et effectivement, il y a beaucoup de sujets qui t'ont abordé. On pourrait rester une quinzaine de jours ensemble. Hein. La première chose, avant de vous donner la parole, que j'ai noté, c'est que vous avez commencé votre conférence par dire « la laïcité est sortie de sa torpeur ». Et en vous écoutant, on a l'impression que la laïcité était un concept un peu figé, inaltérable, qui appartenait à la République française. C'était une base. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez démontré autour de la conférence, on a l'impression que ça tangue, que c'est un équilibre à trouver, qu'il y a une juste mesure à trouver, mais que c'est quelque chose qui devient en perpétuel mouvement, qui est tiraillé. On a l'impression, parce que vous utilisez beaucoup d'images quand vous parlez, c'est intéressant, d'une mer relativement calme, et aujourd'hui, avec des vagues, des creux qui montent de plus en plus, et il faut faire effectivement attention aux directions dans lesquelles on peut aller.
Bien, écoutez, mon idée, c'est que il y a eu un réveil. Il y a eu un réveil parce qu'il y a eu des tests, il y a eu des attaques, et ça continue, ça n'arrête pas. Ça s'amplifie, d'ailleurs, ça devient gros comme une maison. Il ne faut pas non plus s'affoler parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Plus elles sont virulentes, plus ça prouve qu'il y a une force qui s'est construite en face, qui s'est reconstituée, qui s'est reconstruite. C'est ça mon idée. Moi, j'étais un petit peu dans l'état d'esprit que vous décrivez. Quand j'étais professeur, pour moi, la laïcité... D'ailleurs, je n'ai pas eu de formation à la laïcité. Ça allait de soi. Ma mère, qui a été institutrice, elle a eu une formation à l'école normale. Mais dans les années reculées du XXe siècle, là oui, on les formait, on leur faisait lire Condorcet, on leur faisait lire les grands textes, Ferdinand Buisson, etc. Mais moi, professeur, je n'ai jamais eu ça, et ça allait de soi, c'était tout naturel. Eh bien, c'est dangereux, ça. On s'assoupit, on ne pense plus. Donc, heureusement que d'une certaine manière... Alors, oui, heureusement, je parle en termes philosophiques, en termes intellectuels, mais d'une certaine manière, ces attaques nous ont mis en demeure de penser. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que moi, je m'en suis saisie avec mes co-signataires de l'Appel des Cinq, Elisabeth Banater, Elisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut, Régis Debray. Eh bien, nous avons fait ce texte parce qu'effectivement, il y avait un moment où il fallait reprendre les choses. Et là, on était en pleine dérive.
C'est le réveil date de cette période, de l'époque de Creil.
Oui. Parce qu'écoutez, j'ai apporté le texte, je ne vais pas vous le lire, hein, mais j'ai apporté le texte de cette lettre ouverte à Lionel Jospin, qui d'ailleurs, on sait bien ce qui s'est passé après, hein, il a botté en touche. Et il a,
on dit, ils ont exclu d'exclu.
Voilà. Mais ce texte, bon, je ne vais pas vous le lire, il est long, mais quand je le reprends, je dis, il n'y a pas un seul mot auquel je ne souscris pas encore une fois, et c'était très bien dit, nous avons besoin de réaffirmer un principe qui permet à chacun d'être différent de sa différence, de pouvoir respirer, et c'est le principe de la respiration laïque que j'ai essayé de théoriser.
C'est un mot qui revient beaucoup, vous avez cité Delphine Horviller qui a le même mot d'ailleurs, qui est rabbine, hein. Et cette idée de respiration, j'ai vu une interview que vous aviez donnée où vous parliez des enfants qui, comme une image aussi, qui marchaient dans une forêt plein d'arbres, un peu touffus, et qui arrivaient dans une clairière à l'école, une clairière avec le ciel au-dessus et cet espace de respiration, un peu de liberté, où on n'a plus les atours des croyances, de la famille. Hein. Elle est très forte, cette idée de respiration, pour vous.
Oui, elle est très importante parce qu'il me semble que c'est ce point-là qui nous permet de dire, voilà, la laïcité, on dit la laïcité, c'est la liberté. C'est une façon d'organiser le dispositif politique pour qu'un maximum de liberté apparaissent, puissent se construire. Et alors, bien sûr, quand on demande à un enfant, il va à l'école, on ne va pas à l'école comme on va au McDo. Voilà. Hein. Et on ne construit pas sa singularité comme on compose une pizza avec des ingrédients disponibles. Vous savez, ce n'est pas un acte marchand. Et l'école, ce n'est pas un rassemblement de tags, d'étiquettes. Il faut pouvoir prendre distance avec ce qu'on croit être. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre avec ce qu'on est. Mais ça veut dire qu'il y a un moment de recul, il y a, au fond, un pas en arrière vers l'espace zéro. Je rapporte sous cela, ça me fait penser à un grand texte classique. Le mot laïcité n'existait pas, mais c'est un grand texte de la laïcité, Les cinq mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, que j'ai beaucoup travaillé. Et à la fin... Condorcet fait une grande envolée sur la Révolution française. Il dit tout a changé, il y a une rupture. Il dit, dans la période précédente, l'Ancien Régime, on croyait qu'on était quelque chose parce qu'on était comte, marquis, prêtre, évêque, etc. Et voilà qu'il découvre qu'ils étaient aussi des hommes. Ils ne sont, bien sûr qu'ils peuvent être, alors bien sûr on a aboli les titres de noblesse, mais vous croyez que vous êtes quelque chose en disant je suis, j'adhère à telle ou telle chose? Non, réfléchissez, vous êtes d'abord un individu singulier. En vertu de quoi vous allez adhérer à cela? L'école ne va pas interroger les élèves dans ces termes-là, bien sûr. Elle va leur donner l'aliment pour faire le détour. L'aliment, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'humanité a fait de mieux, l'humaine encyclopédie. Alors la clairière, l'image, je l'ai empruntée à Jacques Muglioni. Il dit oui, dans une clairière, on est enfermé. Oui, vous enfermez les gens, vous enfermez les... Mais bien sûr, brouillez l'espace, brouillez la différence entre l'école et la société, mais vous faites directement entrer les pressions. C'est ce qu'on disait dans la lettre. Et là, Muglioni a donné cette image, disant, mais dans une clairière, oui, vous êtes entouré d'arbres, mais vous voyez le ciel, vous voyez un peu plus loin. Alors ça ne vous empêchera pas de renouer avec votre appartenance. Vous pouvez aussi vous en dégager. Vous pouvez en changer.
Le choix.
Voilà, c'est le choix, mais ce n'est pas un choix de type je prends la pizza margarita, je prends la pizza avec en plus du cumin dedans. Ça ne se fait pas, hein, ça se fait pas du tout. Moi qui suis d'origine italienne, jamais ma grand-mère n'aurait admis mettre du cumin. Enfin, il y en a qui le font. Bon. Donc vous pouvez mettre ceci, cela. Bon. Non, bien sûr, ça aussi, ça existe. Moi aussi, je le fais. C'est aussi une forme de... C'est un repos pour l'esprit. On ne peut pas tout le temps penser, c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. C'est difficile.
C'est
fatigant. C'est fatigant. Bon. J'espère que vous êtes fatigué. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Eh bien, oui, dans la clairière, on voit un peu plus loin, on voit le ciel. Et il faut commencer toujours par ouvrir, il faut donner de l'air. Et donner de l'air, paradoxalement, l'école va le faire en clôturant, en faisant obstacle au brouhaha social. Et ça commence par tout simplement la discipline. La sérénité. Il faut un peu de sérénité contemplative. Bien sûr, ils y ont droit, les élèves.
Merci. Alors, vos questions dans la salle. Donc, on a les micros, s'ils peuvent être levés pour voir à peu près s'ils sont loin. Il y en a sur les côtés. N'hésitez pas, même si c'est exigeant. On peut poser des questions aussi simples, parce que Sébastien Vincini l'a dit au début. La laïcité, c'est à la fois un concept qui a l'air très simple et qui est très compliqué. On l'a vu ce soir. Dès qu'on tire un peu sur le fil de la pelote, ben, il y a tout un tas de conséquences. Qui veut poser une question à Catherine Kinzler? Vous les avez impressionnés, j'ai l'impression. Et ils vous ont impressionné. Alors, il y a un doigt qui se lève. Vous croyez, dans 10 minutes, il y a moins de gens qui vont être impressionnés. Il y a beaucoup de doigts qui vont se lever. Il y a monsieur au quatrième rang. Levez bien la main, il est là. Bonsoir.
Bonsoir. Il faudra que je relise vos livres parce que c'était un peu difficile à suivre. Mais merci. Alors moi, la laïcité...
Il est là. Ici.
Voilà. J'ai lu quelques textes avant de venir, hein, donc c'est très intéressant. Alors moi, la laïcité, je m'y intéresse depuis très très peu, je dirais. J'ai commencé à lire Les territoires perdus de la République, et c'est en lien avec ce que je vis à travers mes différentes activités, ce que je vois dans la rue. Et ma question, alors il y a aussi des structures qui apparaissent pour enseigner la laïcité, il y a des associations qui vont dans les collèges, tout ça. Alors ma question, elle est pessimiste. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que les territoires perdus de la République, ça date de 2002, avec des exemples, ceux qui ont écrit, bon, ils prennent des exemples qui remontent, je pense, dans les années 90. Voilà. Et aujourd'hui, les atteintes, elles sont tellement importantes, répétées, et c'est arrivé bon, dans les territoires perdus de la République, il y a un exemple où une surveillante se baisse et des élèves voient sa croix juive et ils commencent à la harceler. Donc ça, c'est pas tellement grave, mais depuis, il y a eu des attentats, des meurtres, et... Moi, j'ai pas l'impression que ça ralentit, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des moyens supplémentaires à mettre vraiment pour que la laïcité rentre dans les esprits des gens?
Catherine voilà. Kinzler.
Merci.
On prend un risque parce que moi, je m'étais...
Alors oui, je sais qu'on prend un risque. C'est pour ça que je suis là aussi, voilà, à côté de vous, pour essayer de donner des éléments, parce qu'on va essayer de prendre plusieurs questions. Mais sur cette question simple, est-il trop tard et qu'est-ce qui peut nous donner de l'espoir? Comment est-ce que vous pourriez répondre?
Bah, écoutez, je vais essayer d'être rapide. Il y a deux manières de... Oui, vous avez parfaitement raison. Ça, non seulement ça n'arrête pas, mais c'est de mal en pis. Ça, c'est de plus en plus violent. Enfin, on n'a pas besoin de... Je crois que Monsieur le Président l'a décrit aussi dans son intervention. Il y a deux manières de le dire, de l'interpréter. Dire, voilà, oui, c'est fichu. On baisse les bras et bon. Et puis l'autre manière, c'est ce que j'ai essayé de faire. Les attaques nous permettent de forger des armes. Il faut des armes intellectuelles. Il faut bien sûr être sur le terrain, être ferme. Mais si on n'a pas d'arme intellectuelle, si on n'a pas une pensée ferme, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que, là, j'entends, après les attentats, après les différentes attaques, ça revient, la petite musique revient. Ah, mais pourquoi on ne reconnaîtrait pas les communautés comme amis? Les élèves, ah, puis là aussi, pour l'instruction, ma foi. Ah oui, mais les élèves, il faudrait qu'ils s'expriment davantage à l'école. Mais non, ils ne s'expriment que trop. Il faut qu'ils puissent parler après avoir réfléchi. On organise le...
Ils ne sont pas là pour se défendre. Hein.
Le bruit pédagogique, mais je crois que beaucoup. Parce qu'on dit un élève sur deux se plaint de...
L'attention, qu'il n'y a pas assez, voilà, discipline et d'attention dans la classe.
Et notre... Je crois qu'elle était toulousaine il y a peu de temps. Fatia Agag-Boujala a répondu dans un tweet que j'ai trouvé. Elle a dit oui, mais ça veut dire que c'est l'autre élève qui met le désordre. Parce que ça fait un sur deux. Mais c'est l'autre.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est toujours l'autre.
Et donc, voilà, je crois qu'il faut forger des armes. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, bien sûr, il y a... c'est pour ça que j'ai commencé ma conférence par là. Réveil d'un assoupissement. Bon, ça, c'est mon boulot d'intellectuel. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il fallait travailler. Je n'avais pas travaillé. Je m'y suis mise depuis 1989. Bon, ce n'était pas du tout mon truc. Hein,
vous avez travaillé sur autre chose avant. Quand voilà. Même, hein.
Bon. Et deuxièmement, je pense que j'ai commencé par cette pensée aimable, etc. C'est celle-là qui est en fait le ventre mou et qui donne aux attaques anti-laïques et intégristes et anti-républicaines tout leur poids. Qui les laisse se développer. Et ça, je crois que là, les responsables politiques sont extrêmement concernés et il y en a beaucoup qui prennent les choses en main. Et je les remercie.
Merci beaucoup.
Pour les cœurs.
Alors, au fond, une main qui se lève et au milieu. Alors, il va falloir les atteindre.
Bonsoir. J'ai aimé vraiment votre discours, mais moi, la priorité, j'aimerais savoir, est-ce que si vous perdez la vie, est-ce que vous serez toujours laïque et vous serez toujours dans la sincérité de parler franchement de votre discours, ce que vous faites?
Merci. Il y a monsieur derrière aussi qui avait une question. On prend deux questions. Je crois qu'il y a une autre main qui se levait derrière. Ou je me suis trompé? Non. Alors, la question au milieu et puis on donne la parole à Catherine Kinsler.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kinsler. Votre propos était vraiment roboratif, nourrissant. Et voilà, ça nous a conforté dans des convictions que nous sommes nombreux, je crois, à partager ce soir. Pour rebondir sur le propos de monsieur tout à l'heure, moi aussi, je suis quand même accablée par une forme de pessimisme nourri, par exemple, par ce qui est paru dans une étude du 30 novembre dernier, donc on est c'est donc tout récent. C'est une étude dirigée par le politologue Philippe Portier, rattaché au CNRS, et puis Charles Mercier, maître de conférence à Bordeaux. Bon, j'avoue que ces noms m'étaient inconnus, peut-être sont-ils familiers pour vous. Et les résultats d'un sondage, du sondage mené, sont, je crois, inquiétants. Et je trouve confirmés par ce que je vois ici ce soir. Si je fais un aperçu très global de notre rassemblement, je vois plutôt des têtes au-delà de 30 ans. Alors, j'en ai vu quelques-unes qui étaient en dessous. Tant mieux, c'est magnifique. Mais Ce résultat, ce sondage faisait apparaître que dans la jeunesse française, entre 18 et 30 ans, on perçoit un mouvement très nettement en rupture avec les idées que nous portons. J'ai comme une intuition qu'il y a pas mal de profs ici ce soir et pas mal de profs un peu chenus. Et en gros, près de la moitié des jeunes interrogés estimaient normal de porter des signes religieux à l'école. Autrement dit, ils dévoient un des principes de la laïcité que vous avez énoncé, un des deux. Voilà. Et ils remettent au goût cette fameuse laïcité adjectivée, la laïcité plurielle du temps de Jospin. Moi, j'avoue que c'est ça qui me tracasse, c'est de voir que certes, nous sommes confortés, vous nous donnez des armes intellectuelles, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, on marche à fond, oui, mais on vieillit et la relève, elle est où ? Voilà, pardon.
Et pour rebondir sur ce que dit madame, il y a aussi quelque chose qui apparaît dans les enquêtes par rapport aux jeunes, c'est que c'est souvent au nom de la tolérance, vous avez parlé aussi d'offenses qui gênent les jeunes, c'est au nom de la tolérance qu'ils vont essayer de défendre un certain nombre d'attitudes que des laïcs, alors ultra ou des laïcs, non, voilà, ça c'est vous qui mettrez le curseur, trouver difficile. Comment est-ce qu'on peut faire quand effectivement il y a un décalage entre la jeunesse et la salle qui est réunie ce soir?
Oui, écoutez, alors je ne sais pas répondre à la première question. Si je perds la vie, eh bien, je ne sais plus rien du tout.
C'est peut-être lié aux croyances. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire.
Alors, si on me menace de ma vie, est-ce que je serai toujours laïque? Je ne sais pas quel serait le degré, quel serait mon degré de courage. Personne ne l'a jamais éprouvé, donc je ne sais pas répondre à cette question. Alors, pour la question sur le sondage, je l'ai lu, ce sondage. Alors, je n'ai pas apporté le détail, mais d'abord, j'ai remarqué qu'il y a au moins une question qui est complètement biaisée, c'est-à-dire on présente en choix exclusif des choix qui sont compatibles. Pour vous, la laïcité, c'est l'égalité entre les religions, choix 1. Choix 2, assurer la liberté de conscience. Choix 3, développer les religions dans la société. Et on leur demande de choisir exclusivement entre... Mais non, on peut choisir, si on lit la loi du 9 décembre 1905, au contraire, on va choisir au moins deux réponses qui sont compatibles. Donc il y a des choses quand même, beaucoup, il y a beaucoup à redire sur ce sondage. Cela dit, vous avez parfaitement raison, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'était assoupi. Et ça veut dire que le moment que j'ai décrit comme le moment de tolérance est celui où on dit les communautés sont d'abord prioritaires, a des conséquences. C'est ça qu'il faut expliquer. Ça a l'air très gentil comme ça. Mais en réalité, il faut expliquer ce que c'est qu'une assignation. Il faut expliquer ce que c'est que ne pas pouvoir échapper à sa propre communauté. Les risques que certains, et surtout certaines, prennent lorsqu'elles échappent au mariage, lorsqu'elles veulent vivre leur vie de manière indépendante, vivre comme une Française. J'ai vu ce terme paraître dans la presse à plusieurs reprises, les crimes d'honneur. Elle voulait vivre comme une Française. Il faut expliquer ce que c'est qu'une assignation. Il faut expliquer que l'adhésion à une communauté, la liberté n'est pas celle qui est celle de clé en main, celle d'un consommateur, que l'on vous propose toute faite, toute prête, toute pensée. Mais ça, c'est une question de pratique. Alors, bien sûr, on a envie de dire il faut faire beaucoup de cours sur la laïcité, faire des interventions, etc. Oui, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut arrêter aussi de répandre trop de prêchis-prêchats. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je suis venu faire d'autre, hein? Bon, j'ai essayé de forger des armes intellectuelles. C'est un objet intellectuel. Ça a un peu intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, en tant que c'est un objet intellectuel. En tant que c'est un objet intellectuel. Parce que, au fond, vous voyez comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne. Alors, les historiens l'expliquent à partir de choses tout à fait autres que celles que je peux manipuler. Moi, j'ai aussi quelque chose à dire, mais ça, c'est à partir de là qu'il faut le faire. Mais d'autre part, je crois qu'il faut le pratiquer. Il faut oser la pratiquer, la laïcité. Dire aux élèves, attendez, là, ici, non, on n'a pas à se réunir par affinité. Parce que vous ne vous connaissez pas.
Alors, je voulais faire un petit pas de côté par rapport à l'interrogation de madame, qui est très intéressante. Pour aller sur le terrain des réseaux sociaux, vous avez parlé à deux ou trois reprises de patchwork. Aujourd'hui, est-ce que le phénomène des réseaux sociaux, on a l'impression que les jeunes peuvent vivre à côté, chacun un peu dans sa ou ses communautés, en laissant les autres vivre aussi, en n'y allant pas forcément, est-ce que ce phénomène ne peut pas nous permettre de comprendre cette espèce de tolérance qu'ils ont, en disant « laissez-les vivre, ok, ils font ci, ils font ça, nous on fait autre chose ». Est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence et peuvent contribuer quelque part à dégrader un peu ce vivre ensemble créé par la laïcité ?
Écoutez, alors, en tant que réseaux sociaux, vous avez parfaitement raison, je pense. Hein. C'est-à-dire que nous avons constitué... Même moi, quand j'y vais, qu'est-ce que c'est comment on appelle ça, la liste, mes abonnés, machin, Twitter, X. Je ne vois jamais que des gens qui pensent comme moi. Hein. Alors, réunir un noir, un blanc, un jaune, un ceci, un cela, qui pensent la même chose, ce n'est pas de la diversité, ça. Hein. Bon. Donc, ça, effectivement, autant qu'ils sont des réseaux, ce sont des molécules. Bon, alors on y va pour s'informer, on y va pour voir ce qui se passe, etc. En revanche, est-ce que vous vous rappelez le débat de 2005 sur le référendum ? Il n'y avait pas les réseaux sociaux encore. Il y a eu un débat d'un excellent niveau à travers les sites qui a échappé au courant dominant qui était diffusé par la presse classique. Ça a été très intéressant. Donc, un outil peut être ambivalent. Bon, mais ce que effectivement vous pointez, qui est tout à fait juste, me semble-t-il, c'est cette formation en molécules qui se regardent les unes les autres de manière bienveillante. Mais rappelez-vous Gérard Collomb. Bienveillante d'abord, puis côte à côte, et bientôt face à face. Dans la clairière dont on a parlé, tout le monde est mélangé, non pas par affinité, mais singulièrement, pour s'affronter à quoi ? Ben, il n'y a rien de plus laïque que la table de multiplication.
Une question encore pour...
J'exagère un peu, hein, mais...
Catherine Knizler.
C'est laïque.
Alors, on va prendre deux questions. Il faut que je trouve les micros. Déjà, il y a un monsieur ici... Et ensuite, de ce côté, on va prendre monsieur aussi.
Merci pour votre exposé, mais je vais redescendre de X étages pour vous parler de la vie communale et comment l'intégrisme peut se développer et prendre le contrôle dans une société. Donc je crée une association culturelle et culturelle. Je demande à la municipalité, pour mon association culturelle, de me donner une salle communale. Pour faire des cours de langue arabe, pour être précis. Or, en fait, cela se transforme non seulement en cours de langue arabe, mais en psalmodie du Coran, en apprentissage du Coran, dans la salle communale. Et ça continue, ça devient la salle privatisée pour la prière du vendredi après-midi, où on vire les associations de la commune. Donc, est-il acceptable de voir dans des salles communales offertes aux associations se transformer en salles de prière.
Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question, si le micro est là-bas.
Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur la radicalité. Alors, j'ai sans doute fait un biais cognitif.
Vous levez peut-être parce que la salle est grande.
Oui, d'accord.
Il est là, à droite.
Voilà. Je voulais revenir sur la radicalité. Alors, j'ai sans doute fait un biais cognitif, mais la liste que vous avez énumérée, ça suggère quelque chose. Par exemple, l'affaire du voile de 89 à Creil, l'affaire de la loi de 2004, l'assassinat de Samuel Paty, l'assassinat de Bernard Dominique, l'affaire Labaya. En fait, si je me réfère à cette liste, je comprends que la radicalité, elle est islamique.
Alors, deux questions, avec des thèmes pas forcément différents. Vous voulez répondre sur ces points ? Alors, en essayant d'être assez bref.
Oui, essayons. Alors, l'exemple de la salle communale, l'association se présente comme culturelle d'abord. Bon, j'offre une remarque. Si les langues vivantes étaient enseignées au lycée, il y aurait moins de trous dans lesquels ces associations peuvent s'installer. Si les services publics occupaient un peu mieux le terrain, voilà. Mais ça, il faudra en parler à Gabriel Attal, qu'on puisse augmenter les heures d'enseignement. Augmenter les heures d'enseignement et donc recruter les professeurs. Oui, ça c'est classique. Bien sûr, vous décrivez quelque chose de très classique. Bon, le critère, non, la salle ne peut pas devenir une salle de prière. Elle ne peut pas devenir une salle de prière. Le critère, c'est est-ce que n'importe qui peut y aller pour apprendre l'arabe ? Et oui, voilà. Oui. Il faut oser y aller.
Alors, si elle est privatisée et que c'est une salle communale, c'est que ça pose un autre problème au niveau de la municipalité.
La salle communale est privatisée par l'association cultuelle. Les associations autres indépendantes sont virées de là-dedans. Ça se passe parce que vous n'avez pas...
Alors ça, pour ne pas aller trop sur le terrain de ça, mais a priori, si la salle communale est privatisée, c'est qu'il y a, j'imagine, déjà un problème par rapport à la municipalité. On ne va pas rentrer dans le détail de l'affaire, hein, c'est sur les principes.
Et oui, alors justement, pour la pénétration, vous n'avez pas évoqué... Vous avez parlé du communautarisme, mais vous n'avez pas évoqué la recherche du vote communautariste. Et on le voit actuellement au niveau national, mais ça existe au niveau local dans les grosses communes de la métropole toulousaine. Et ces dérives-là viennent en grande partie de cette recherche, quelle que soit la couleur politique.
Bien sûr. Si je l'ai évoqué à un moment, quand j'ai dit « la République n'est pas un deal, ne négocie pas avec des lobbies, etc. », c'était dans ce cadre-là. Bien sûr, je ne pouvais pas consacrer un développement entier au clientélisme. Mais c'est aux citoyens de prendre les choses en main, que voulez-vous. On ne peut pas... il faut voter... Il faut pouvoir intervenir. Bon, en tout cas, la question de la salle, bon, il y a des juristes dans la salle qui certainement seront plus compétents que moi pour répondre, mais là, ça me semble vraiment contrevenir au droit, tout simplement. On ne peut pas fermer la porte. Bon. Alors.
Sur les exemples.
Alors, j'avais d'autres exemples. J'avais l'affaire du gîte d'Épinal, c'était l'inverse. Je vous l'ai cité après dans la conférence, à savoir quelqu'un qui voulait exclure des femmes voilées de son restaurant parce que elle considérait que c'était public. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait... Bon, je voudrais simplement remarquer que quand vous brûlez le feu rouge, l'infraction, elle stigmatise les brûleurs de feu rouge. Ils se plaignent pas d'être stigmatisés. Ils ont fait une infraction. Quand on enfreint la loi, on va pas se plaindre qu'on vous stigmatise. Bon. Alors, oui, on aurait pu mettre les crèches. On aurait pu mettre les crèches dans les mairies. Elles n'ont rien à faire. D'autant plus que les élus municipaux ont quelque chose. C'est très facile de transformer, de nommer ça exposition, de convoquer quelques panneaux historiques, etc. Et puis de changer un petit peu d'année en année. Donc c'est vraiment, ce sont des provocations, ça, bien sûr. Mais évidemment, il n'y a pas le coutelas derrière. Il n'y a pas le coutelas derrière. Là, il se trouve que, et encore dans les exemples que j'ai donnés, si, il y avait le coutelas. Il y avait les attentats de 2015 et il y avait la décapitation de Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard. Je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Non, ce que disait monsieur, c'est qu'effectivement, c'est plutôt par rapport à la religion, par rapport à l'islam, qu'il y a les exemples et qu'il peut y avoir peut-être plus d'attaques par rapport à la, même si vous avez cité les crèches en ce moment. Donc, c'est un peu au cœur des débats par rapport à la laïcité, même s'il peut y avoir, vous l'avez énuméré, hein, les dangers peuvent venir de peu partout. Oui. Je pense que c'est ce que voulait dire monsieur.
Il y a différence de degré, oui. Bien sûr, mais enfin, bon. Mais les infractions pour excès de vitesse stigmatisent les amateurs de vitesse. Je suis désolé.
On va prendre deux autres questions, parce qu'après, il y a le temps convivial où on va discuter pour ne pas trop déborder. Oui.
Oui, bonsoir. Juste pour quelques témoignages, je suis là. Comme vous, j'ai été enseignant pendant 43 ans. Je n'ai eu aucune formation sur la laïcité, que ce soit dans la formation initiale ou la formation continue. Et pour faire un jeu de mots, ça continue comme ça. Donc on a l'impression que la laïcité, c'est un peu comme la sécu, c'est inné. Et alors que, ça a été dit en introduction, c'est un apprentissage. mais pour l'apprendre, encore faut-il qu'il soit enseigné. Donc, les jeunes collègues qui arrivent n'ont aucune, enfin, je veux pas dire qu'ils n'ont aucune notion, c'est pas ça, mais à part leur conviction personnelle, qui les forme par rapport à tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parliez de violence tout à l'heure, qui devenait de plus en plus importante. Je crois qu'il ne faut pas les limiter à une seule religion. Si je peux me permettre de rappeler que, suite à l'assassinat de Samuel Paty, quelques jours après, l'évêque de Toulouse était invité sur France 3 et déclarait « On ne se moque pas impunément des religions ». Qui a repris ça? J'ai entendu quelques représentants politiques s'insurger, mais globalement, alors que c'est un appel au meurtre, ce qu'il a dit. Mais il n'était pas de bon ton de répondre. Troisièmement, je pense que les choses ne sont pas terminées. On parlait des jeunes, mais les jeunes, c'est pareil que pour les enseignants. Quand est-ce qu'on leur parle de laïcité? Pardon? Excusez-moi, je vais peut-être dire un gros mot.
Continuez.
Je dis, les jeunes, quand est-ce qu'on leur parle de laïcité? Certainement à l'école, mais en dehors de l'école, quand est-ce qu'on en parle sur les grandes ondes, à la radio, à la télévision et ainsi de suite? On en fait comme si c'était un objet figé. Donc c'est comme ça que je vois un peu les choses.
Monsieur le Président, on n'en parle qu'à l'école. Hein. Je dis ça pour les professeurs, je pense, qui ont pu réagir. Une autre main par là.
Bonsoir et merci. Bon, j'ai une préoccupation. D'abord, je dis merci pour l'exposé. J'ai aimé. Mais seulement que j'ai pas eu assez de lumière sur toutes les questions que je me posais avant d'arriver ici. Parce que je vous dirais que j'ai souvent discuté avec mon fils depuis le mois de septembre sur ce sujet de la laïcité. Mais j'ai du mal à expliquer à mon fils que la France est un pays laïque. Bon, c'est pas parce que le calendrier des jours fériés de la France est calqué sur le calendrier chrétien. C'est pas forcément sur ce point-là. Mais c'est aussi le fait que lorsque je repars dans l'histoire, quand je vais vers le 15 juillet 1801, au sujet du concordat entre Napoléon et le papy, et quand je repars en 1795 sur le décret entre l'État et entre les gouvernants, les rois et les églises, et quand je remonte sur la constitution de 1958, mais je me dis qu'avec tout ce qui a été décidé, le cordon ombilical entre l'État et l'Église aurait dû être coupé depuis. Mais alors j'ai du mal à expliquer à mon fils que en Guyane, c'est l'État et les collectivités locales qui assurent les salaires des ministres des cultes, rien que pour l'Église catholique, et ce n'est que l'Église catholique qui est autorisée en Guyane jusqu'à là. Et ce qui se passe en Alsace-Moselle, par exemple, c'est la France aussi. Et l'État fait autant pour l'Église catholique. Alors je me demande, est-ce que la laïcité existe en France ou encore que la mauvaise laïcité essaie de donner vie à la radicalité, par exemple. Je ne sais pas s'il y a eu une interaction comme ça. Il y a la laïcité, en quelque sorte, qui donne de la force à la radicalité. C'est une question. Et
La réponse de Catherine Kinsler, en accent peut-être, puisqu'on a eu les deux questions sur l'explicitation de la laïcité. Comment aujourd'hui faire revenir la laïcité, alors pour les jeunes, mais pour la population en général, comment on peut l'expliquer aux enfants? Est-ce que vous avez un petit guide à nous soumettre? Parce qu'il faut aussi utiliser des mots simples, utiliser des concepts simples, sinon ça va être difficile.
Oui. Écoutez, bon, je commence par la dernière question. Monsieur a parfaitement raison. Il y a des zones entières sur le territoire de la République française qui ne sont pas concernées par la séparation des églises et de l'État. Vous avez parfaitement raison. Et s'agissant de l'Alsace-Moselle, je connais un peu la question puisque j'ai épousé un Mosellan qui a fui parce qu'il ne supportait plus. Bon. Et s'agissant de la Guyane et d'autres territoires, ben, on les a abandonnés tout simplement. Et pas seulement sur ce plan-là. Bon, donc, vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Alors, sur le calendrier, bon, on ne peut pas effacer l'histoire. Il faut laïciser les fêtes religieuses. Il n'y a pas de raison de ne pas en intégrer d'autres. C'était dans les attendus de la commission Stasi de 2003. Hein, donc, je vous y renvoie. Alors, Comment, vous savez, moi, je représente pas du tout le Conseil des Sages. Hein, vous avez mentionné, mais là, c'est en mon nom personnel que je me suis toujours exprimée depuis le début. Moi, je pense que le trop de prêchi-prêcha, c'est pas bon. D'abord, parce que faut pas transformer ça en religion civile. Enfin, il y a rien de plus. Enfin,
et en cours pour les élèves, et en voilà. Cours.
Alors, il faut en faire un objet intellectuel. Effectivement, ça c'est intéressant, c'est au programme de l'éducation morale et civique. Bon, alors s'agissant de la formation des professeurs, bon, elle est mise en place. Il y a les équipes valeurs de la République. Moi, j'ai pas regardé toutes celles qui fonctionnent et comment elles fonctionnent. En tout cas, il nous arrive, nous, les membres du Conseil des Sages, de nous déplacer, d'aller faire des interventions, des études de cas, etc. On se donne un petit peu de mal. C'est sur le chantier, si vous voulez. Mais bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais je crois que chaque fois qu'on laisse entendre qu'il s'agit d'installer une espèce de credo, une sorte de religion civile, alors il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il n'y a pas, l'État n'a pas à embrigader. On doit pratiquer la laïcité. Alors, pour les élèves, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit pouvoir leur enseigner, alors, par exemple, les empêcher de se réunir par religion au réfectoire. Empêcher le personnel de dire, toi, ah non, tu ne vas pas manger de porc. Simplement parce qu'il y a un nom là qui a une consonance. Ça, oui, il faut le faire et il faut l'expliquer. Il faut pouvoir faire circuler cette universalité. Alors, c'est l'essence même de l'enseignement, parce qu'il s'intéresse à des objets qui intéressent l'humanité entière. J'ai donné l'exemple de la table de multiplication, c'est un peu réducteur, mais enfin, bon, il faut quand même la connaître. Bon. Mais je crois qu'il faut aussi que le maître soit exemplaire. Qu'il puisse dire, voilà, moi, personne ne connaît si j'ai une religion. On ne va pas faire défiler les opinions devant les élèves. Les arbres de la laïcité qu'on met dans les écoles, mais c'est effrayant.
Mais est-ce qu'on ne doit pas axer...
Voilà, il y a les petits musulmans, on les catégorise, mais c'est tout le contraire.
La difficulté, c'est est-ce qu'il faut essayer de donner une image positive de la laïcité, de ce qu'elle peut apporter. Vous avez parlé de respiration, de possibilité, d'ouverture, et éviter ce que peut-être les jeunes ressentent aujourd'hui, d'en parler comme quelque chose de contraignant avec tout un tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que ce n'est pas cette conception qui est en train de prendre le pas chez les jeunes?
Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Alors, il y a deux choses, deux écueils, le prêchi-prêcha et la plaidoirie, la pleurnicherie. Ils ont horreur de ça et ils ont raison. Parce qu'il faut leur expliquer que ça donne de la force. C'est la puissance qu'il faut leur apprendre, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher à l'école. C'est l'excellence et la puissance, et non pas une espèce de gentillesse comme ça. Bon, c'est autre chose. Ils la trouvent ailleurs, ça. C'est la force que ça donne. Ça donne de la force. Après, tu pourras renouer, oui. Et puis, personne ne te demande d'être tout le temps sous la même règle, sous les mêmes mœurs. Il faut changer. L'école doit offrir aux élèves une double vie. Le luxe de la double vie, ils ne l'auront pas dans leur vie après. C'est un luxe. Il faut leur donner ce luxe de la double vie, leur faire sentir qu'on les traite non pas comme fils ou fille de, ou héritier ou héritière de, etc., mais à chaque fois que chacun est pris pour lui-même, comme une singularité. C'est ça la promesse de la République, traiter chacun comme une singularité. Et là, il n'y a pas de sommet qu'on ne puisse atteindre. Pas tous les jours, pas tout le temps. Mais il faut essayer de faire ça. Et je crois que c'est ça l'exemple. Alors bien sûr, après, vous pouvez dire, ben voilà, c'est ça la laïcité. Quand un enfant a compris ce que c'est que... Je donne toujours cet exemple, hein. La retenue dans une soustraction. C'est très difficile, une retenue dans une soustraction. Condorcet donne trois méthodes pour faire une soustraction. Trois façons. C'est très difficile. Mais vous voyez ses yeux s'illuminer. Et quand il a compris ça, il est dans une position d'absolue liberté. Même Pythagore n'en sait pas plus que lui sur ce petit point-là. C'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Et alors, à ce moment-là, on peut introduire une question métaphysico-morale. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Qui est « je » quand tu dis « j'ai compris » ? Qui est « je » ? Est-ce que ça peut être le petit copain d'à côté ? Oui, ça peut être lui. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas au même moment. Peut-être qu'il a compris avant toi. Mais c'est un « je » qui est à la fois absolument singulier et absolument universel. Qui a marqué l'essai ?
Ce sont
des singularités. Hein ? Les équipes de rugby, ce sont des singularités.
Et c'est une grande amatrice de rugby. On peut l'applaudir. Merci, Catherine Kinsler.
Même audio ? Une mémoire sonore ?